Marché en main, l'économie mondiale à la portée de chacun. Chers auditeurs et auditrices de Radio Baliba FM, bonjour. Ici Quentin Brachet, journaliste de Spoutnik Afrique et animateur de votre émission Marché en main, qui vous apporte des éléments de compréhension de l'économie mondiale. Dans cette édition, nous reviendrons d'abord sur l'actualité économique entre le nouvel état des lieux des réserves mondiales de devises, la croissance russe en plein essor et une récolte abondante, mais aussi sur le retour des sanctions américaines contre le Venezuela et la sécheresse en Afrique du Nord. En deuxième partie, je recevrai le docteur Tayrou Bangré, expert en sport et business, sociologue de l'information et de la communication burkinabé. Avec lui, nous dresserons le bilan économique de la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de s'achever en Côte d'Ivoire. A tout de suite sur Baliba FM. La Russie a gagné une place dans le classement des réserves de devises mondiales établi par le World Gold Council. Elle se situe désormais au 6e rang devant l'Arabie Saoudite avec 442 milliards de dollars d'équivalent en devises. Ce revirement n'est pas dû à une augmentation des réserves du côté russe, mais au fait que Riyad a décidé de réduire les siennes pour les placer dans des fonds de développement nationaux. En effet, les réserves de l'Arabie Saoudite sont à leur plus bas niveau depuis 2009. En tête de ce classement du World Gold Council, la Chine écrase la concurrence avec l'équivalent de 3300 milliards de dollars de réserves en devises. Derrière suit le Japon avec 1200 milliards. La Suisse reste bon troisième avec 755 milliards. L'Inde arrive quatrième avec 574 milliards. Tout près de Taïwan à la cinquième place avec 564 milliards de dollars d'équivalent en devises. Les réserves en devises ne prennent pas en compte les réserves d'or, mais en les intégrant aussi au calcul, la Russie tient toujours la sixième place. À ce niveau, toutes les réserves ont augmenté l'an passé en valeur, essentiellement du fait d'un renchérissement de l'or. La quantité d'or reste globalement inchangée, mais l'augmentation de son prix tire toutes les réserves vers le haut. A noter que la grande tendance de l'année passée est le passage de devises occidentales, principalement le dollar, vers d'autres devises, surtout le yuan. Si la Russie progresse dans le classement, le destin de ses réserves gelées pourrait toutefois rebattre les cartes. Dans le cas de la Russie, les sanctions inouïes dont elle est la cible n'ont eu qu'un impact limité. Si l'année 2023 a dépassé toutes les attentes en termes de croissance économique pour le pays, l'année 2024 semble bien partie pour surprendre encore les Occidentaux qui fantasmaient sur un effondrement de l'économie russe. Le Fonds monétaire international a publié ses nouvelles prévisions pour la croissance mondiale. Le précédent rapport, sorti en octobre 2023, prévoyait une croissance de 1,1% pour la Russie en 2024, un chiffre modeste mais qui déjà dépassait ceux de la plupart des pays européens. Les nouvelles projections de croissance pour 2024 attribuent désormais à l'économie russe une croissance de 2,6%. C'est le plus fort relèvement des prévisions parmi tous les pays évalués par le FMI. À titre de comparaison, en 2024, les États-Unis devraient avoir une croissance de 2,1%, la zone euro de 0,9%, le Royaume-Uni de seulement 0,6% et le Japon de 0,9%. Selon le rapport du FMI, la forte croissance russe est due à des dépenses militaires élevées et à la consommation des ménages qui est soutenue par l'augmentation des salaires. A contrario, en Afrique, le Fonds monétaire international a réduit les perspectives de croissance. Pour les pays nord-africains, la réduction de la production de pétrole décidée par l'OPEP+, va faire perdre quelques dixièmes de points. Toutefois, l'institution précise que l'économie, qui n'est pas liée aux hydrocarbures, continue de se porter bien. Pour l'Afrique subsaharienne, le FMI a également réduit légèrement ses projections de croissance à cause des conditions climatiques défavorables qui ont un impact sur l'agriculture et à cause de problèmes de logistique. Si la sécurité alimentaire reste un problème en Afrique, l'accès à l'alimentation trouve des solutions, notamment grâce aux récoltes exceptionnelles de la Russie. Les sanctions occidentales contre la Russie ont causé du tort aux exportations de céréales en direction de l'Afrique à partir de 2022. Pour remédier à cela, la Russie a organisé une multitude de convois céréaliers gratuits. Le pays peut se le permettre grâce à des récoltes records que même l'URSS n'avait jamais atteintes. Le 24 janvier, le ministre russe de l'Agriculture, Dmitri Patrouchev, a dressé le bilan de la récolte de 2023. Elle a ainsi atteint les 143 millions de tonnes de céréales et même 147 millions si l'on compte les nouvelles régions rattachées. Ce chiffre place l'année 2023 directement derrière le record absolu de 153,8 millions de tonnes de l'année 2022. Pour le blé, la Russie détient la première place mondiale en termes d'exportation. Pour les autres denrées, la production de lait a augmenté de 500 000 tonnes, celle de viande de 300 000 tonnes et désormais la Russie est devenue le premier producteur de saumon au monde avec plus de 600 000 tonnes. Les principaux clients du pays sont la Chine, la Turquie, l'Union européenne, le Kazakhstan, la Biélorussie, la Corée du Sud et l'Égypte. Concernant les livraisons gratuites, rien qu'en janvier, la Russie a exporté sans contrepartie 25 000 tonnes de céréales à l'Érythrée, 25 000 à la Somalie, 25 000 au Burkina Faso et encore 25 000 au Mali. De nombreux autres devraient suivre. Toujours en Afrique, mais cette fois-ci sur ses rivages nord, l'absence de précipitations menace la sécurité alimentaire. Pour la troisième année consécutive, les trois pays du Maghreb subissent une sécheresse qui les expose à de mauvaises récoltes. En décembre dernier, les précipitations ont été de 50% inférieures à la moyenne sur 10 ans en Algérie, de 55% au Maroc et de 63% en Tunisie. L'indice de référence pour les sécheresses dans le monde, Gros Intelligence, a atteint le plus haut niveau de risque pour cette période de l'année dans l'Afrique du Nord depuis l'année 2003. L'impact sur les récoltes se faisait déjà sentir l'année dernière avec une chute de 27% de la récolte de blé en Algérie. Pour compenser les risques alimentaires dans la région, les importations de céréales augmentent. Alger a notamment acheté 1,6 million de tonnes de blé russe de juillet 2023 à janvier 2024 inclus, soit 20% de plus qu'au cours de la même période de la dernière campagne agricole. L'Afrique du Nord est d'ores et déjà la région la plus dépendante du commerce de céréales. La baisse des prix n'a pas aidé les pays de la région car les monnaies locales se sont affaiblies. Sur le long terme, la question d'une pérennisation de la situation alimentaire dans la région continuera de se poser. Alors que les tensions géopolitiques causent du tort aux pays les plus fragiles, Washington, de son côté, a décidé de punir de nouveau le Venezuela. Depuis l'hiver 2022 et le début du conflit ukrainien, les États-Unis se sont jurés mordicus de couper tous les débouchés des hydrocarbures russes afin de tarir les recettes budgétaires de Moscou. Pour y parvenir, il fallait donc relâcher la pression sur d'autres pays producteurs et exportateurs, notamment un allié de la Russie, le Venezuela. Depuis l'administration Trump, Caracas était soumis au carcan des sanctions sur son industrie pétrogazière. En octobre 2023, l'administration Biden a décidé de lever une partie de ses sanctions économiques, officiellement en échange de la libération de prisonniers et d'élections en 2024. L'objectif caché était de permettre au Venezuela de compenser en partie la disparition du pétrole et du gaz russe des marchés occidentaux. Caracas ne s'est pas plié aux conditions fixées par les Américains. Ainsi, le 31 janvier dernier, le département d'État américain a décidé de ne pas attendre le mois d'avril en ne reconduisant pas cette levée partielle des sanctions. Avec 193% d'inflation en 2023, le Venezuela devra encore subir les coups de fouet des États-Unis pour ne s'être pas soumis à leurs injonctions. Être libre et souverain peut parfois coûter très cher. Depuis la qualification du Maroc en demi-finale lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, le football africain attire de plus en plus l'attention au-delà des frontières du continent. La CAN est devenue une compétition à portée mondiale avec environ 2 milliards de téléspectateurs annoncés au total par la Confédération africaine de football. De ce fait, les intérêts économiques gravitant autour du tournoi augmentent. La CAN 2023, 34e édition de cette compétition continentale, a été retransmise dans 180 pays, soit quasiment tous les pays du monde. La Côte d'Ivoire, qui a remporté le tournoi, estime que 2 millions de personnes sont venues assister à la compétition sur place. Pour accueillir un tel afflux, le pays a investi l'équivalent d'1,5 milliard de dollars pour améliorer les routes, les hôtels, les installations sportives et surtout sortir de terre 4 nouveaux stades. Le stade Alassane Ouattara de 60 000 places, les stades Charles Konan Bani, Laurent Pokou et Amadou Gon Koulibaly, chacun de 20 000 places. Seuls les deux autres stades étaient préexistants et ont été rénovés pour l'occasion. Les investissements ont battu des records pour cette CAN, tout comme les recettes. Pour revenir sur les retombées économiques et touristiques de cet événement exceptionnel, je reçois le docteur Taïrou Bangré, expert en sport et business, sociologue de l'information et de la communication burkinabé. La CAN 2023 touche à sa fin. Le président ivoirien Alassane Ouattara voulait que cette compétition soit la plus belle de l'histoire. Est-ce que le pari est réussi pour les organisateurs du tournoi ?
On peut dire que le pari a été réussi parce que c'est vrai que le chef de l'État a mis tous les grands moyens au service donc des organisateurs. Donc on estime à plus de 900 milliards le budget qui a été débloqué donc pour cette CAN-là. Et nous, on a eu la chance d'être sur place. On a vu toutes ces infrastructures, toutes ces routes qui ont été disponibilisées. Donc, on va dire que le pari est là. Donc, les infrastructures sont à la hauteur. Franchement, nous avons apprécié tous les stades pratiquement que nous avons vus, que ce soit à Boaké, à Yamoussoukro. Et à Korogo, nous avons vu tous les, nous avons été sur les trois sites. Bon, à San Pedro, j'ai vu les images aussi qui sont, c'est un très beau stade. Et à Abidjan, les deux stades aussi sont magnifiques. Donc, je pense que vraiment des efforts ont été faits. Donc, pour qu'il y ait vraiment des infrastructures modernes. Et je pense que ça, c'est à l'avantage, hein, donc, du pays, du chef de l'État, et vraiment, qu'il y ait donc, de telles infrastructures donc, mises à disposition, hein, donc, de cette CAN-là.
La Côte d'Ivoire a-t-elle montré qu'elle était à la hauteur en termes de préparation d'infrastructures modernes pour accueillir une compétition de haut niveau, non seulement pour la CAN, mais pour toute compétition internationale?
La Côte d'Ivoire, et du fait qu'elle a pu organiser cette CAN avec toutes les infrastructures qui ont été réalisées, donc on va dire qu'elle était à la hauteur, hein, donc de l'événement. Vraiment, ce sont des infrastructures modernes, hein, de qualité. Hein, vous le savez bien, le coût est estimé à près de 900 milliards, hein, ce qui a été projeté donc pour cette CAN. Vraiment, ça a été, je pense qu'il y a le pays n'a pas lésiné sur les efforts financiers. Et donc, pour construire 6 stades, et on compte 24 terrains d'entraînement qui sont mis en place, 3 cités CAN. Et donc, on dit que vraiment des routes, des ponts qui ont été dressés. Je pense que des hôtels qui ont été mis en place aussi pour accueillir les gens. Je pense que la Côte d'Ivoire peut être fière, hein, donc d'avoir organisé et cette CAN-là, hein, du moment où aussi ces infrastructures donc vont servir à la population. Donc je pense que c'est une très très bonne chose.
Des entreprises chinoises ont notamment participé aux travaux sur ces infrastructures. La Chine est-elle un partenaire privilégié pour la réalisation du football africain?
Je pense que comme je voulais. Je peux le confirmer ici. Nous avons eu la chance d'être sur place pour suivre cette CAN. Nous avons suivi l'équipe du Burkina Faso, donc qui était sur deux sites, trois sites, hein, notamment à Boaké, à Yamoussoukro et la troisième ville, c'était Korogo. Donc, bon, j'ai fait un tour aussi. Nous avons fait un tour aussi à Abidjan. Et donc, nous connaissons déjà les terrains, sauf San Pedro, hein, que nous avons vu à la télé. Je pense que des efforts ont été faits, hein, par rapport à ces réalisations, donc qui sont faites, beaucoup sont faites encore. Ces réalisations ont été faites par la Chine notamment. Donc, on peut dire que la Chine est devenue et reste sans doute un partenaire privilégié, crédible, hein, et donc et solide. Quand elle permet donc à tous ces pays-là, et notamment la Côte d'Ivoire, d'avoir des eaux dotées et d'infrastructures sportives donc de qualité. Donc c'est surtout ça qu'il faut souligner. Donc la rapidité dans les travaux, je pense aussi, on souligne très souvent le rapport qualité-prix, donc qui reste donc à l'avantage donc de la Chine et qui fait donc de ce pays, un partenaire. Solide, fiable et crédible. Souvent, bon, le temps est compté. Donc, je pense que financièrement aussi, et je pense que la Chine doit peut-être permettre certaines souplesses. Voilà. Donc, ça permet donc aux différents pays donc de leur accorder quand même de la confiance pour venir réaliser. Et ces infrastructures sportives là que j'ai vues, vraiment, ce sont de belles infrastructures, hein, que j'ai vues et à Boaké, à Yamoussoukro, à Korogo. Vraiment, j'ai été séduit, hein, parce que quand on regarde ce qui se passe en Europe, les stades d'Europe, souvent on n'est pas loin des mêmes stades, hein, même la pelouse, question pelouse, etc. Vraiment, ça a été Ça, vraiment, ces infrastructures-là sont de qualité.
Autrefois, les compétitions ivoiriennes se déroulaient quasiment toutes à Abidjan. En quoi les investissements réalisés vont-ils révolutionner le football ivoirien lui-même en interne ?
En Afrique, dans les grandes villes, dans les grands pays, très souvent, on a vu, ce sont la capitale qui concentre donc toutes les infrastructures. Et là, vraiment, des efforts ont été faits hein, pour cette CAN-là. Je pense que c'est aussi, c'est la CAN, c'est la CAF qui l'exige hein, d'avoir plusieurs terrains. Et je pense que ça a été une bonne chose. Le fait d'avoir de posséder donc des stades dans d'autres régions est salutaire. Hein. Donc, comme je l'ai dit, c'est tout le territoire qui est concerné désormais, et cela profite à la jeunesse ivoirienne, hein, qui est, on le sait, très passionnée donc par le sport et le football notamment. Et donc aussi, c'est la relève hein, sportive qui en gagne hein, du fait que lorsque tout le territoire, le pays est concerné, on ne se contente plus de voir le sportif sortir d'Abidjan. Et donc, ce sera dorénavant, on verra dorénavant hein, des équipes hein, donc du championnat venir donc de Korogo, de Boaké, de Yamoussoukro, de San Pedro. Et ça, c'est vraiment une très, très bonne chose hein, de pouvoir aller vers d'autres régions. C'est ça qui manque chez nous. Très souvent, ce sont les grandes villes, notamment les deux ou trois grandes villes, et qui concentrent donc les activités sportives. Et je suis bien placé pour le dire parce que ouais, je suis dans le domaine un peu. Donc là, c'est vraiment une très très bonne chose, et ça, c'est très louable. Lorsque nous arrivons à aller vers d'autres régions pour les infrastructures sportives et hôtelières. Et ça crée des emplois, ça crée plein de choses. Et de cette masse-là, sans doute sortira la qualité, hein, la qualité donc en termes de jeu, en termes donc de... voilà, donc je pense que la Côte d'Ivoire aura une belle relève donc dans le temps, hein, parce que c'est bien, il y aura la masse donc qui sera concernée donc par le sport et le football en particulier.
La CAN 2019 en Égypte avait permis une augmentation de 30% du tourisme dans le pays. Cette édition va-t-elle avoir des retombées économiques comparables, voire supérieures pour la croissance de la Côte d'Ivoire ?
Je pense que c'est un trait donc aux retombées hein, et donc de cette CAN-là. Donc, j'ai vu les chiffres quelque part. On estime à 2 millions de visiteurs donc, qui se sont déplacés. Et ça, c'est vraiment... un vrai business hein, donc pour le pays. Et donc d'un point de vue restauration, transport, vraiment je pense que d'un point de vue hôtellerie, je pense que on aura les chiffres hein, et après c'est un très beau business hein, parce que 2 millions de personnes arrivent dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Je pense que j'ai fait partie donc de ces 2 millions là. C'est vrai que chercher à manger, se déplacer dans les taxis, aller prendre la téléphonie, tout ça. Et je pense que ça a été une bonne affaire. Et même acheter les maillots, acheter les, etc. Donc, je pense que, et on verra les chiffres, ça a été de belles retombées. Et une image a retenu mon attention. Et je l'ai lu quelque part dans le courrier du maire. Et donc c'est le balai donc de jet privé donc pour cette finale de la CAN 2023. Donc on estime donc c'est le balai donc de jet privé donc qui sont arrivés donc pour cette finale là. Donc pour dire vraiment qu'il y a eu il y a eu de l'engouement hein, donc pour cette CAN là. Donc on estime à 107 jets privés hein, qui sont venus donc du Nigeria, 60 de l'Afrique du Sud, une trentaine donc du Ghana, une dizaine de la Côte d'Ivoire et un du Burkina Faso. Donc sans doute cette CAN a été une belle affaire. Hein oui, on voit que même au niveau donc de la qualité donc des infrastructures aéroportières, il y a eu des efforts qui ont été faits dans beaucoup de domaines pour accueillir tous ces avions-là. Je pense que financièrement, ça a été une bonne chose.
La Côte d'Ivoire va-t-elle transformer l'essai en devenant une destination touristique importante en Afrique ?
À une image plutôt rugbystique, hein, rugbystique, parce que la Côte d'Ivoire va-t-elle transformer l'essai ? Oui, je pense que oui, du moment où toutes ces infrastructures sont en place, je pense que c'est au pays donc de tout mettre en œuvre, hein, pour attirer les gens. Et vous avez de belles infrastructures, ça ne suffira pas, hein. Il faut une politique pour que les gens, c'est ce que je disais, à Boaké, lorsque vous avez de telles infrastructures comme ça, avec des terrains d'entraînement à côté, c'est l'occasion donc de faire des appels aux pays voisins pour qu'ils viennent chez vous s'entraîner, faire des matchs amicaux, etc. Je pense que c'est aussi une politique à mettre en place pour que les gens puissent viennent exploiter les terrains, organiser des matchs au niveau des écoles, des lycées, des universités, etc. Je pense que aussi il faut que nous soyons capables donc de mettre en place ce genre d'événements donc qui vont attirer du monde, puisque bon, les installations sont déjà là. Et ça, c'est une bonne chose, hein, de les avoir, hein, déjà. Donc maintenant, il faut mettre ces stratégies-là en place, donc pour attirer le monde. Je pense que même une équipe marocaine, quand on voit ces infrastructures-là, elle peut venir passer quelques jours à Boaké, à Korogo, avec il y a du calme. À certains moments de l'année, de pays comme l'Algérie, la Tunisie, tous ces pays-là qui ont pu avoir les moyens pour se déplacer, pour venir, sans oublier les pays voisins, que sont le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, etc., le Sénégal ou la Guinée. Donc, ils peuvent venir aussi et en Côte d'Ivoire donc, pour profiter donc, de ces infrastructures-là, qui sont de qualité. Donc, je pense que c'est vraiment, c'est une bonne chose, hein, pour appeler. Mais bon, là, comme je l'ai dit, il faut avoir la capacité de mettre ces politiques-là en place pour attirer, pour attirer les gens, pour attirer les touristes, voilà, etc. Parce qu'il y a, il y a les hôtels, il y a les transports, donc, dorénavant, ça va circuler et c'est positif, hein, pour le pays.
Le business de la CAN passe aussi par les sponsors. Une grande part d'entre eux sont étrangers. Le football africain est-il condamné à dépendre d'entreprises principalement occidentales pour se développer ?
Forcément, hein, et puisque le budget est lourd, hein, pour la CAN, on a besoin des sponsors étrangers. Et notamment, bon, on sait que le football mondial repose beaucoup sur le monde occidental. Donc, les sponsors, on a toujours besoin. Mais quant au développement donc du football africain, je pense pas que il est condamné à dépendre d'entreprises occidentales. Je ne pense pas. Hein. Et c'est à nous de pouvoir mettre aussi ce sponsoring en place. Et on a des sociétés qui sont assez développées, qui existent chez nous. Donc, je pense que c'est avec ces entreprises-là, on pourra. Il y a des sponsors, hein, des gens qui sont prêts à accompagner le football et le sport, hein, d'une manière générale chez nous. Donc, il faut une politique donc pour aller vers ces sponsors-là et afin de développer donc le sport. Donc, les entreprises occidentales, on peut toujours les exploiter parce que elles aussi c'est leurs intérêts, hein. Donc quand elles viennent pas pour vos beaux yeux, elles viennent pour leurs intérêts. Moi je pense que bon, c'est elles sont les bienvenues, mais bon, le football africain ne dépendra pas que de ça, hein. Donc je pense que il faut que nous ayons nos propres forces, hein. Donc il faut compter sur nous-mêmes. Faut pas compter sur les autres parce que c'est un appoint, hein, c'est un apport extérieur qui est toujours nécessaire, même quand vous allez en France par exemple ou ailleurs. Vous voyez, il y a le Qatar qui est là, il est Paris Saint-Germain à coups de milliards. Donc même en Angleterre c'est pareil, hein, c'est devenu mondial, hein. Donc ce genre de sponsor, c'est comme ça. Et même le Rwanda, je vois qu'il sponsorise les équipes européennes. Donc c'est devenu mondial. Donc là, je pense que, comme je l'ai dit, hein, pour développer nos activités, nos sports. On ne peut compter que sur nous-mêmes et puis maintenant de se développer, pour se développer. Voilà, aller vers les autres, c'est souvent pas interdit, mais faut pas compter. Il faut pas compter sur ça. Hein. Comptons sur nos propres moyens, on les a. Et je pense que c'est ça qui assure, c'est ça qui est crédible, parce que là, si vous comptez sur l'étranger le jour où ils sont pas là. comme dit un proverbe burkinabé, qui dit que dormir sur la natte des autres, hein, c'est comme dormir par terre. Donc, il faut compter sur ses propres forces. Donc, je pense qu'on a la capacité donc de pouvoir nous organiser pour avoir un bon sponsoring dont nos équipes en ont vraiment besoin.
Avec des enjeux économiques de plus en plus importants, la lutte pour obtenir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations ne risque-t-elle pas, in fine, d'être confiée uniquement à des pays ayant de grands moyens au détriment des plus petites nations?
Lorsque vous êtes un petit pays, pouvoir organiser cette compétition africaine est rendue très, très difficile. Hein. C'est comme la Coupe du Monde également, hein, dans ces pays en Europe où c'est très difficile pour un seul pays. On va vous demander 49 pays qui arrivent, par exemple, pour la Coupe du Monde, ou 48 pays qui arrivent. Pour la CAN, idem, hein, vous avez 24 équipes qui arrivent, 6 terrains, forcément. Quand vous êtes un petit pays avec des moyens assez limités, ce n'est pas simple. Hein. De plus en plus, on s'oriente vers un regroupement. Hein, des pays, on se met si le Bénin veut organiser ou le Burkina veut organiser. C'est l'organiser peut-être avec le Mali et le Niger, par exemple. On se met à trois pour pouvoir l'organiser. Et ça, c'est aussi une bonne chose, hein, parce qu'il y a beaucoup de compétitions. Donc, on peut étaler sur ces trois pays-là. C'est comme le Bénin, le Togo, qui peuvent se mettre ensemble pour l'organiser avec le Ghana, etc. Sinon, de plus en plus, ça va être très, très difficile, même si ça permet à un pays comme la Côte d'Ivoire d'avoir beaucoup d'infrastructures. Mais la Côte d'Ivoire aussi, bon, c'est un pays ils ont les grands moyens. Bon, je pense que nos nations là, bon, et puis avec les moyens qui sont assez limités, ce n'est pas simple. Par exemple, pour des pays d'avoir autant de stades que nous avons vu, deux ou trois stades, mais quand c'est 6, 7, ouais, c'est pas simple. Donc, je pense que finalement, comme je dis, on s'oriente vers l'organisation par deux ou trois pays, de cette CAN-là qui demande beaucoup de, oui, qui demande beaucoup de moyens.
La prochaine édition de la CAN aura lieu dans 1 an et demi au Maroc, le pays qui a fait sensation au Qatar lors de la Coupe du Monde. Peut-on déjà prédire que cette CAN battra tous les records de fréquentation et de téléspectateurs?
Je pense que ça serait une très belle CAN, hein, ça, moi je suis persuadé parce que les Marocains ont développé cette attitude d'accueillir les gens et je pense que c'est une très très bonne chose. Hein, c'est une destination qui est prisée par beaucoup de gens et quand quelqu'un arrive là-bas, on voit les commentaires par la suite, c'est un beau pays, etc. Et ça a l'avantage hein, d'avoir déjà toutes les commodités hôtelières, de restauration des gens. Oh, la population aussi, elle est accueillante. Moi, j'ai eu la chance de passer quelques moments là-bas. Je suis mieux placé pour le dire. Hein. Je pense que cette CAN sera battre tous les records. Je ne vais pas m'aventurer. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Voilà, permettre aux gens de voyager, de pouvoir arriver à moindre coût. Voilà. Je pense que les gens vont se préparer pour arriver au Maroc. Je pense que moi, j'ai foi que ça sera une belle CAN. Au niveau de la popularité, au niveau de l'accueil, je pense qu'ils sont habitués, ils ont déjà les infrastructures en place. Le Maroc, c'est une destination touristique déjà, je pense que ils vont aller au-delà. Ils ont les compétences, c'est un pays qui est assez dynamique. Je pense que c'est une destination rêvée. Et même, c'est pas que les Africains. Moi, je pense que les gens viendront de partout pour assister à cette CAN 2025. Vraiment, j'ai foi et c'est un beau pays, le Maroc.
C'était le docteur Taïrou Bangré, expert en sport et business, sociologue de l'information et de la communication burkinabé. Avec lui, nous avons vu l'importance qu'a revêtue cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations pour la Côte d'Ivoire et les perspectives qui s'ouvrent désormais au pays. Ainsi s'achève cette édition de Marché en main de Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Maliba FM à Bamako. Nous nous retrouverons prochainement pour d'autres entretiens d'experts et suivre l'actualité de l'économie mondiale. D'ici là, bonne journée et bonne écoute.